Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a annoncé dimanche vouloir un nouveau report pour la formation d'un gouvernement d'union avec le président Salva Kiir, estimant que toute précipitation conduirait à la catastrophe. Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016 lorsqu'un accord de paix avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant donc le conflit. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre a tenu ce week-end à Lomé son deuxième congrès ordinaire. Outre le renouvellement des instances dirigeantes de l'ANC, le congrès a investi son président, Maître Fabre, comme candidat à la présidentielle de 2020. Une candidature qui vient s'ajouter aux trois autres déjà déclarées. Jean-Pierre Fabre est candidat pour la troisième fois au moment où tout le monde se demande si le président fort Yassingbe va briguer un quatrième mandat. Notre correspondante, Kaïla Lawson, fait le point.
Oui, j'accepte d'être le porte-étendard de la victoire des Togolaises et des Togolais en 2020. J'accepte pour conquérir...
C'est dans un discours qu'on pourrait intituler « J'accepte » que Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a accepté d'être candidat de son parti à la présidentielle de 2020. Pour lui, le meilleur programme pour le Togo est l'avènement de l'état de droit.
Le plus grand programme au Togo concerne l'instauration de l'état de droit. Si vous ne mettez pas en place l'état de droit, aucun investisseur digne de ce nom ne viendra engager ses capitaux au Togo. Donc, première chose, il faut instaurer un état de droit qui attire les investisseurs, qui permette aux populations de vivre en sécurité.
Avec une élection à deux tours, l'opposition togolaise ne se focalise plus sur une éventuelle candidature unique. Le combat actuel est axé sur des réformes pour de meilleures conditions électorales. Professeur David Dosser, coordonnateur du Front citoyen Togo Debout.
Nous avons depuis des décennies lutté, consenti beaucoup de sacrifices. Il est temps pour que le Togo aussi achève sa lutte. Et 2020 doit être une année incontournable de la victoire du peuple togolais. Mais cela signifie que nous devons nous battre pour obtenir un minimum de conditions. Nous n'irons pas aux élections dans n'importe quelles conditions. Nous allons obliger le pouvoir à accepter un minimum de conditions qui puissent nous garantir la vérité des urnes.
Pour pouvoir arracher des conditions pour une élection transparente, il faut relever le défi d'une unicité d'action des forces dites démocratiques, suggère la coordinatrice de la coalition politique C14, Brigitte Adjamagbo-Johnson.
C'est ensemble que les forces démocratiques doivent aller chercher les conditions de transparence des élections. Il n'est plus question qu'on organise dans notre pays une parodie d'élection. C'est tout un défi, un grand défi.
La présidentielle de 2020 devrait se tenir sans Faure Gnassingbé, insiste Jean-Pierre Fabre.
Le chef de l'État, dont le père a modifié la constitution pour qu'il en profite, est à son troisième mandat. Et il compte briguer un quatrième mandat. Et je lui dis stop, parce que ça n'est pas normal. Et donc, ce ne sont pas les artifices juridiques ou constitutionnels ou l'invocation de dispositions constitutionnelles qui comptent. C'est l'addition des mandats. M. Faure Gnassingbé en a déjà fait trois. Il ne peut pas raisonnablement penser faire un quatrième mandat.
Pour son investiture, Jean-Pierre Fabre a reçu de son parti une bougie allumée qui est l'emblème du parti, le drapeau togolais et une sculpture en bois du Togo. La présidentielle de 2020 devrait se tenir dans le premier trimestre de l'année. Les Togolais attendent que le président sortant, Faure Gnassingbé, se prononce sur son avenir politique, c'est-à-dire s'il sera candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Nigeria, découverte d'exactions dans une autre école coranique de Kaduna, dans le nord du pays. Cette fois-ci, on parle de près de 150 élèves, dont 22 filles. Plus de 1000 talibés ont ainsi été libérés en un mois. Les détails avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
C'est la quatrième opération de ce type en un mois effectuée par la police nigériane. Les conditions de captivité des personnes libérées n'étaient pas encore claires, mais contrairement aux autres écoles, au moins 22 des captifs nouvellement libérés étaient des femmes. Selon la police de l'État de Kaduna, les captifs avaient été enchaînés, battus et abusés sexuellement. Des abus similaires ont été signalés dans d'autres centres de torture récemment découverts à Katsina et Kaduna au cours du mois écoulé. Les centres de torture convertis en écoles islamiques sont très répandus dans le nord du Nigeria, majoritairement musulmans. Les propriétaires de ces centres prétendent enseigner le Coran aux étudiants, mais les soumettent plutôt à des abus physiques au nom d'une réhabilitation morale. Une de ces écoles a été découverte la semaine dernière dans la ville natale du président Muhammadu Buhari. Les personnes libérées comprennent des enfants âgés à peine de 7 ans. Dans le pays, les gens se demandent combien y a-t-il encore de ce type de centres de torture qui restent encore cachés. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Mali, l'armée a annoncé avoir neutralisé des dizaines d'ennemis et réussi à libérer une trentaine de ses soldats lors d'une contre-offensive lancée après la double attaque du 30 septembre contre ses bases militaires. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse, colonel-major Oumar Diara.
À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté amis, 40 morts, 36 rescapés, dont 17 évacués. Le bilan des portés disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus.
Général Abdramane Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali.
Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko Dijafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli Dioumi.
Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, au moins 30 personnes sont mortes dans un accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur la route entre Kinshasa et Matadi, dans l'ouest du pays, selon un nouveau bilan de sources humanitaires. Le territoire de Mbanza Ngungu, où a eu lieu l'accident, est situé à environ 150 km à l'ouest de la capitale, sur la route nationale 1, réputée pour les accidents meurtriers qui s'y produisent. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui était invité pour assister à l'intronisation de l'empereur du Japon, vient de décider d'annuler son voyage suite à cet accident, indique un communiqué signé par son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Vladimir Poutine va présider mercredi et jeudi le premier sommet Russie-Afrique, symbole des ambitions grandissantes de Moscou dans une région où Chinois et Occidentaux comptent plusieurs longueurs d'avance. Une trentaine de dirigeants sont attendus à ce rendez-vous qui vise à montrer que la Russie a beaucoup à offrir aux États africains, selon le Kremlin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, des milliers de personnes ont manifesté hier à Port-au-Prince, la capitale de Haïti, à l'appel de dirigeants religieux et artistes populaires pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, mot d'ordre d'un mouvement de contestation lancé depuis la fin août. La colère populaire contre Jovenel Moïse, décriée par les opposants les plus radicaux depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, s'est accentuée fin août à la suite d'une pénurie de carburant généralisée à travers le pays. Le président sortant de la Bolivie, Evo Morales, qui brigue un quatrième mandat consécutif, est donné en tête de l'élection présidentielle en Bolivie, selon des résultats partiels publiés dimanche par le tribunal suprême électoral. Selon un décompte portant sur 83% des bulletins de vote, Evo Morales est crédité de 45,71% des voix devant Carlos Mesa, son principal rival, qui lui a 37,84%. Sur la base de ces résultats, Evo Morales devrait affronter Carlos Mesa lors d'un second tour prévu le 15 décembre prochain. Un candidat à la présidentielle doit obtenir plus de 40% des suffrages exprimés et avoir moins de 10 points d'avance sur son, au moins 10 points d'avance sur son rival. Le plus proche pour être élu dès le premier tour. Et puis le Chili est en guerre, a affirmé dimanche son président Sébastien Piñera, dont le pays est secoué depuis 3 jours par des émeutes, des pillages qui ont fait 7 morts, la pire explosion sociale depuis des décennies. Pour la 2e nuit consécutive, une mesure de couvre-feu a été décrétée. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.